I used to think buying foundation online was impossible. How am I supposed to find my shade when I can't even get it right in store? Then I discovered Il Makiage. I took their AI-powered quiz to find my custom match, and wow, this foundation is literally my skin in a bottle. The undertone and coverage are spot on. It's so neutral and weightless, I can't even tell I'm wearing makeup. Plus, with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Take the Power Match quiz now at ilmakiage.com/quiz. ilmakiage.com/quiz.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Louis.
Il y a quelques semaines, ma mère m'a demandé de faire du tri dans sa cave, de récupérer des vieilles caisses où s'entassent entre autres body pour bébé, bulletins scolaires et ma collection douteuse de poupées en porcelaine que je croyais dénichée par mon père dans des petites échoppes aux quatre coins du monde et qu'il achetait en fait la plupart du temps à l'aéroport. Cet après-midi-là, j'ai cherché mes caisses de livres, ceux que j'avais lus enfant et que j'espérais pouvoir lire à Abel. Et je suis retombée sur un en particulier. Je l'avais un peu oublié, mais c'était mon préféré quand j'étais petite. Une version abrégée des Chevaliers de la Table Ronde, illustrée par un peintre italien qui s'appelle Piero Cattaneo. Il y a des pages arrachées, mais toutes les émotions qui m'avaient traversées pendant que mon père me le lisait le soir, chapitre par chapitre, étaient intactes. Mon épisode préféré, c'était celui où le chevalier Gauvin se transforme en nain difforme après l'envoûtement de la fée Viviane. Dans mon souvenir, il finissait enfermé dans un puits, mais visiblement, c'est pas ce qui se passe dans le livre. Ce livre, parmi d'autres, fait partie de ceux qui m'ont donné le goût de la lecture. L'un des premiers avec lequel j'ai ressenti de la peur, de l'excitation, le stress de savoir si Gauvin allait redevenir un beau chevalier et sortir de son puits imaginaire. Si je suis tout à fait honnête, je ne suis pas ce qu'on appelle une grande lectrice aujourd'hui, de celles qui lisent 3 livres par semaine. Je l'ai été adolescente, puis c'est passé. Et vous verrez dans cet épisode que c'est souvent le cas.
Il était une fois. Un lapin, il habitait très loin.
Mais je veux absolument que la lecture devienne une activité quotidienne et naturelle pour mon fils. Tout simplement parce que je sais les trésors qu'on y trouve.
Alors, soudain, petit lièvre a une idée. Il faisait une coule butte. Et moi, je t'aime droit comme ça. Et moi, je t'aime dans...
Chez moi, les livres, c'est le seul truc qui est illimité. Enfin, quasi, sinon je frôlerais la banqueroute. Quand on va à la librairie, Abel peut choisir 1 ou 2 livres. Il n'y a pas besoin d'occasion particulière. La libraire le connaît, elle commence à savoir ce qu'il aime. Parfois, il se met dans le fond de la librairie, derrière le coin enfant, et il lit. Ou plutôt, il fait la lecture à ses élèves imaginaires.
Alors, moi, je m'arrête à la lumière qui m'attend. Et voilà!
Et cette image me plaît. Pour l'instant, ma stratégie a l'air de fonctionner.
Il était une fois un bonhomme qui n'est pas le genre.
Mais comment fait-on pour que ça dure? J'ai parfois l'impression qu'on se trompe de question. On se demande comment faire lire les enfants, mais pas comment leur faire aimer ça.
Il aimait bien les pandas. Donc une fois...
Alors oui, l'accumulation de lecture et de vocabulaire, ça les entraîne à ce que la lecture soit de plus en plus facile. Mais ce n'est pas la seule question. Parce que le tout, ça n'est pas que les enfants accumulent les références, mais bien qu'ils y trouvent du plaisir. Est-ce que ça, ça peut s'apprendre? C'est la question que j'ai posée à Clémentine Beauvais. Elle est autrice, traductrice, enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation à l'Université de York et spécialiste de la littérature jeunesse. Elle a aussi publié un petit manifeste aux éditions de La Martinière et qui s'appelle « Comment jouir de la lecture ?» Pile dans le mille.
Oh là là, il y a des livres partout, on doit les ranger.
Je suis Marine Revol.
Simple.
Bienvenue dans Fête des Gosses.
Fête des gosses.
Fête des gosses. Fête.
boss.
Ouais, fête des gosses.
Fête des gosses.
Fête des gosses.
Il y a une littérature en particulier qui m'a donné le plaisir de lire, c'est la littérature humoristique, comique. Et on le voit encore aujourd'hui dans les enquêtes, le numéro un que disent les enfants sur les livres qu'ils préfèrent lire, c'est des livres qui les font rire. Et moi, c'était exactement ça. C'est-à-dire que c'était Tom Tom et Nana, c'était Fifi Brin d'Acier, c'était Fantomette, c'était Les Bennett, c'était des livres qui étaient drôles.
Est-ce que c'est vrai que les enfants lisent de moins en moins ?
Alors... C'est une question qui est hyper compliquée. Les enfants lisent de moins en moins par rapport à quel moment ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils lisent de moins en moins par rapport au 19e siècle ? Non, évidemment que non. On voit que le décrochage de la lecture, il est de plus en plus précoce. C'est ça qui est surtout préoccupant, je pense. Il y a toujours eu ce qu'on appelle le bord de la falaise, comme disent les Anglais, cliff edge, qui était aux alentours de 13-14 ans, où il y avait un décrochage des adolescents de la lecture. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que ce cliff edge, il est de plus en plus tôt, de plus en plus précoce. Actuellement, dès le CM1, CM2, il commence à y avoir un décrochage. Et l'autre question, je pense qu'il faut se poser et qui est rarement posée, et malheureusement, il n'y a pas vachement d'études encore parce qu'il faut des études longitudinales sur le temps très long, c'est est-ce qu'ils reprennent ?
Le décrochage à l'adolescence, c'est ce qui est arrivé à Anna.
Ce dont je me souviens plus que de l'arrivée dans la lecture, c'est le retour dans la lecture à la veille du lycée, quoi, vers cette époque-là.
Anna Bui, c'est la réalisatrice de Fête des Gosses. C'est elle qui fait ça, par exemple.
Fête des gosses.
Moi, ma foi, ça me plaisait beaucoup, j'aime bien lire.
Fête.
Et oh, le des... mon livre.
Gosse.
Ah non, hein, non, arrête avec tes bouquins, hein.
Fête des gosses.
J'ai fait une traversée en bateau. Et pendant ce genre de traversée, on n'a pas d'électricité, enfin pas beaucoup. Il faut trouver de quoi s'occuper. Du coup, j'avais embarqué des bouquins. Et je crois que j'avais plutôt emmené des petits livres. Et j'ai emmené du coup des souris et des hommes de Steinbeck. Et là, c'était une énorme révélation. Je l'ai descendu en une demi-journée sur le pont du bateau. Je me souviens, c'était juste avant une tempête en plus. Du coup, tout ça est assez marqué dans ma tête. Et c'était la première fois que je suis complètement rentrée dans un livre, que j'étais captive de l'histoire et des personnages et que j'ai compris tout le potentiel de la lecture en termes d'immersion, en termes de réflexion. Des souris et des hommes, c'est une histoire d'amitié, mais hyper tragique et hyper cruelle. Et tous les sentiments humains que ça explore, ça m'avait vraiment bouleversée. Donc après ça, j'ai eu une espèce de phase de lecture de littérature américaine. J'ai lu beaucoup d'autres livres de Steinbeck, des pavés énormes, Les raisons de la colère, À l'est d'Éden et tout ça. Et puis ensuite, j'ai lu tout Francis Scott Fitzgerald, j'ai lu énormément de la bibliographie d'Hemingway, j'étais complètement retournée dans la lecture. Et avec vachement de passion et d'avidité pour ces auteurs-là, cette époque-là, ce continent-là, quoi. Donc pour moi, c'est un livre super fort dont on m'a offert une édition originale pour mes 18 ans, je crois, tellement je le brandissais comme étant un livre fondateur.
Avant ça, avant le décrochage puis la révélation, Anna, elle lisait petite, beaucoup. Ses parents lui lisaient des histoires et l'encourageaient à lire, et donc elle continuait aussi parce que ça les rendait fiers. Mais surtout parce qu'elle y éprouvait du plaisir. Et ça, on pourrait se dire que c'est un peu injuste, non ? Il y a des gens qui éprouvent du plaisir en marchant en forêt, d'autres non. On pourrait donc en déduire que le plaisir de la lecture, c'est quelque chose qui est inégalement distribué au sein de la population.
Comment on peut expliquer que la lecture, ça fasse pas le même effet à tout le monde ?
C'est une très bonne question et qui est rarement posée, donc merci de la poser. La lecture fait pas forcément le même effet à tout le monde pour tout un tas de raisons. Il y a des raisons éducatives. Ce dont tout un tas de personnes se rendent pas compte, c'est qu'en fait, la lecture, c'est deux choses très distinctes et liées. La première, c'est le décodage. Donc la question du déchiffrage, du décodage, c'est une question d'une certaine manière technique. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de prendre des lettres, des sons, des phonèmes, comme on dit, et d'en tirer un sens ? Et d'abord, on le voit très bien, les tout petits enfants qui commencent à mettre ensemble des phonèmes, ils sont pas forcément capables de le lier à un mot. C'est assez fascinant. Enfin, moi, là, je suis dans une phase avec mon enfant de 3 ans, de 4 ans, je veux dire, qui au supermarché va dire, l'autre jour, il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire frozen? Et il est anglophone. Donc, je dis, bah, frozen. Il venait de lire le mot frozen. Je dis, bah, frozen. Frozen. Et il dit frozen. Et il a fallu, mais je sais pas, 20 secondes pour qu'il capte que ça voulait dire frozen. Et quand, comme c'est difficile sur un mot, on conçoit très bien à quel point c'est difficile sur toute une phrase, etc. Donc, cette étape du décodage, elle est évidemment cruciale, mais là, la grosse erreur que font de très nombreuses personnes, c'est de penser qu'une fois que le décodage est acquis, la lecture est acquise. Et là, je pense qu'on peut vraiment s'aider de la recherche qui nous montre, en fait, ce que font des lecteurs experts quand ils lisent. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment lire ? Vraiment lire un texte pour en tirer du sens, qui nous apporte des enseignements, etc., mais aussi du plaisir. Un lecteur expert, c'est quelqu'un qui, en fait, n'est jamais passif par rapport à un texte, qui est constamment dans une attitude de questionnement par rapport au texte et par rapport à soi-même.
Je vous précise juste ici que lecteur expert, ça ne veut pas dire enfant qui lit des kilomètres de livres à la lampe torche sous sa couette. Et c'est aussi quelque chose qui se travaille.
Et donc, un lecteur expert, par exemple, c'est quelqu'un qui va constamment faire des prédictions. C'est-à-dire qu'une phrase qui commence par, je sais pas, il était une fois une petite fille qui était si adorée par sa mamie et sa maman qu'elle lui avait fait une petite capuche rouge, va se dire, qui est cette petite fille? Est-ce que ça va être elle le personnage principal? Est-ce que sa grand-mère et sa maman vont être encore mentionnées? Pourquoi lui ont fait cette petite capuche rouge? Parfois, il va y avoir des réponses, parfois non. Mais un lecteur expert, il se pose ces questions-là. Un lecteur expert, c'est quelqu'un qui est capable de faire des connexions entre lui-même, le livre, le monde et d'autres textes.
Donc en gros, si je comprends bien, quand on sait lire, on aime lire ?
Malheureusement, c'est un peu difficile de tirer une flèche évidente entre le fait de savoir bien lire ou avoir une attitude par rapport au texte qui soit constructive et qui fasse du sens, avec la notion de plaisir, tout simplement parce que le plaisir, c'est quelque chose de très évasif et de très flou. Et on voit même que au sein d'une existence de lecteur, il y en a qui, d'un coup, ils trouvent plus de plaisir dans la lecture, peut-être pour tout un tas de raisons autres. Mais moi, je suis assez optimiste sur le fait que enseigner une attitude par rapport au texte qui soit une attitude comme ça de curiosité, ça peut générer vraiment une forme de plaisir, et non pas seulement une, mais plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de plaisirs différents qui sont associés à ces différentes approches du texte. C'est-à-dire que le plaisir, par exemple, de la prédiction, le plaisir prédictif, c'est celui de voir ses attentes soit confirmées, soit infirmées. Le plaisir du lien avec le texte, ça peut être un plaisir identificatoire ou un plaisir aspirationnel. On peut se dire, ah, je voudrais bien être comme cette héroïne, comme ce héros. Le plaisir de voir un texte qui nous donne des renseignements sur le monde, c'est un plaisir qui tient aussi du documentaire, qui tient aussi de l'information, par exemple. Ma théorie, c'est plutôt que quand on a cette attitude active par rapport à un texte, on peut potentiellement y trouver une beaucoup plus large gamme de plaisir que quand on attend passivement de trouver le bon texte. Souvent, les enfants comme les adultes sont dans une attitude d'attente du bon texte. Je suis assis dans mon siège, si le texte ne me séduit pas, je le lâche. Moi, j'adore lire quand je trouve le bon texte. Et ce qui est très important quand on commence à se rendre compte de la gamme d'opérations mentales qu'on fait sur un texte pour y trouver du plaisir activement, c'est que d'un coup, c'est plus une question de où est le bon texte, mais plutôt ma lecture à moi va dégager du sens et du plaisir. J'aime bien le comparer à une corde de guitare ou une corde de violon. C'est-à-dire que quand on a une corde de guitare, on la fait jouer et on entend un son, une note. Mais si on la bloque à différents endroits avec son doigt, ça va faire d'autres notes. Et souvent, on a l'impression que les gens, les enfants, les adultes, qui disent qu'ils n'aiment pas lire, en fait, ils reçoivent un texte et ils n'entendent qu'une seule note. La note qui leur est la plus évidente, la plus naturelle, on va dire. Et en fait, plus on développe envers le texte une attitude active, réflexive, curieuse, plus on pince d'endroits différents de ce texte. Et il va à chaque fois sonner une note différente. C'est-à-dire que si j'y réfléchis par rapport au rapport à ma vie, oh, ça fait une note différente. Si j'y réfléchis par rapport à ce que ça m'enseigne sur le monde, oh, une note différente. Et on fait jouer toute la musique du texte, et pour moi, ça, c'est un énorme déclencheur de plaisir, de pouvoir prendre un texte de toutes ces manières différentes.
En fait, ce que dit Clémentine Beauvais, c'est que ce qui procure du plaisir, ça n'est pas le texte en lui-même, pas les jolies phrases, mais l'interaction entre le texte et le petit lecteur. La quantité de lecture, bien qu'elle soit nécessaire pour fonder un socle, ça n'est pas la finalité recherchée. En revanche, On sait, d'après ce qu'on appelle les études de la réception, c'est-à-dire la manière dont les enfants reçoivent un texte, que ce qui est important, c'est la médiation du texte, c'est-à-dire l'interaction.
Il n'est pas parti, le chien.
Et bah si, il est parti.
Oui, mais il est revenu.
Un adulte en face de l'enfant qui lit, qui lui fait prendre conscience de ce qu'il peut tirer d'un texte.
Et qu'est-ce qu'il lui dit à Charlotte à la fin ?
Je reste toujours auprès de toi.
Je resterai toujours auprès de toi.
Non, mais moi aussi j'ai dit. Non, mais c'est pas fini, maman.
Et celui qui nous l'apprend, c'est Aidan Chambers. Lui, c'est un théoricien et aussi un enseignant et praticien anglais qui a révolutionné la manière dont on enseigne les textes littéraires aux enfants en montrant qu'on était focalisé sur qui sont les personnages principaux, quelle est l'intrigue, les obstacles. Ça vous rappelle vos cours de collège, non ? Moi, ça m'a toujours barbé, ce truc. Et donc lui, Aidan, mais visiblement, ses réflexions sont pas arrivées jusqu'aux oreilles de Madame Dumas, ma prof de français, il dit qu'à la place de faire ça, on devrait plutôt demander aux enfants « Raconte-moi ce moment où la grenouille, elle fait ci ou ça. Dis, à ton avis, pourquoi ce personnage agit comme ça ? Et là, à ton avis, il va se passer quoi ?» Tout ça, ça laisse place à l'interprétation de l'enfant. Et c'est quelque chose qui va créer du lien entre le texte et lui. Et ça peut se faire dès la toute petite enfance. Le but, c'est de lui faire prendre conscience que ce qu'il lit, ça n'est pas un monde détaché du réel. D'ailleurs, souvent, on le fait de manière spontanée. « Oh, regarde, Choupi, il a le même ballon que toi. Regarde, il s'appelle comme toi, le petit garçon. » En général, ils sont trop contents. Entre parenthèses, c'est ce qui explique les succès des Choupi, comme l'avait expliqué Jennifer Tamas dans l'épisode « Ce soir Choupi, demain le Nobel ». L'enfant voit que le texte a un lien avec son quotidien et sa réalité.
Quand on explicite des processus comme ça, de lecture, on fait comprendre à l'enfant ce que nous-mêmes on fait, parfois sans nous en apercevoir, sur un texte. Et ça, c'est très important pour l'enfant. On sait que les enfants apprennent très bien quand on leur modèle des comportements. On sait aussi que les enfants apprennent très bien quand il y a un moment d'humour, de surprise, d'attentes qui ne sont pas confirmées. Donc c'est très intéressant les livres pour enfants qui ne sont pas conformes aux attentes. Pour les tout-petits, il y a plein de contre-renversés, par exemple. Les contre-renversés, moi, ça me semble être une source très intéressante pour des enfants parce qu'ils s'aperçoivent que quand on croyait que la princesse allait transformer la grenouille en prince, mais qu'en fait, c'est elle qui se transforme en grenouille, par exemple, là, il y a un truc qui se passe qui n'est pas comme d'habitude. Et ça ne fait que en fait, renforcer dans son esprit ce que c'est qu'une structure normale de conte. Là, ça ne correspond pas. Donc, j'ai compris quelque chose sur la structure normale du conte. Expliciter ça. Ah bah tiens, dis donc, normalement, c'est plutôt la grenouille qui se transforme en prince. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce qui peut participer, en fait, d'une attitude d'enquête par rapport à un texte, c'est quelque chose qui, me semble, peut vraiment faire naître un plaisir et un désir de lire.
C'est ce qui s'est passé pour Charlotte Pudlowski, la cofondatrice de Louis Média. Charlotte, c'est un euphémisme de dire qu'elle lit. C'est limite si elle n'a pas de l'urticaire si on la prive de lecture. Quand on a préparé cet épisode, elle était tellement contente de pouvoir parler de ses livres d'enfance qu'on n'a pas pu lui refuser.
Je me rends compte à quel point c'est dur de demander aux gens de faire des notes vocales tout seul, franchement.
Et ça tombe bien, parce que justement Charlotte, elle a été exposée très tôt, non seulement à la lecture, mais à une médiation du texte.
Moi, j'ai le souvenir que j'ai toujours associé les livres et la lecture au plaisir. À la fois parce que je pense que mes parents adoraient lire. Ma mère, d'autant plus qu'elle n'avait pas fait d'études et que je pense qu'elle le vit comme un luxe et comme un privilège et comme une chance et quelque chose d'assez glorieux, finalement, de pouvoir consacrer du temps à la lecture. Et mon père, parce qu'il a toujours adoré ça et qu'il lisait, on les voyait beaucoup lire tous les deux à la maison le week-end. Et en plus, mon père, qui travaillait beaucoup, il rentrait pile pour l'heure de la lecture. Il rentrait pour ce truc-là, donc c'est forcément que lire des livres, c'était important. Et en plus, moi, mes parents nous ont lu des livres assez tard. Jusqu'à 8-9 ans, on nous a lu des livres, y compris des classiques. Et je me souviens que la première fois que je suis partie sans mes parents, donc en classe verte, j'étais en CE1, donc en CE1, on doit avoir 7-8 ans. J'ai lu mon premier livre toute seule, c'était Polly Superstar. Et je me souviens que c'était à la fois un plaisir de lecture et à la fois un plaisir doudou qui faisait que c'est un peu comme si mes parents étaient là. Donc il y a toujours eu en plus quelque chose de rassurant pour moi dans la lecture, de pouvoir comme avoir une présence dans l'absence, quoi.
On ne serait pas tout à fait honnête si on vous disait que l'attitude des parents vis-à-vis de la lecture n'a pas d'effet sur la relation qu'un enfant entretiendra avec les livres plus tard. Mais Clémentine Beauvais insiste ça n'est pas que la responsabilité des parents.
Bien sûr que c'est extrêmement utile pour un parent pour de lire des histoires à ses enfants, de préférence le soir avant de se coucher, d'instiller comme ça des rituels, parce que les rituels, on sait comment c'est important, notamment pour les jeunes enfants, et de prendre cette habitude de lire tous les soirs. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on sait qu'il y a 10 000 contingences de vie qui font qu'il y a plein de choses qui sont difficiles à prendre en compte pour plein de parents. Il ne faut pas non plus que ça devienne une injonction ennuyeuse, parce que enfin moi, je crois beaucoup au fait quand même que quand on a une activité où le parent n'est pas passionné, c'est hyper difficile de passionner l'enfant.
Il y a d'autres médiateurs et médiatrices qui peuvent donner aux enfants le goût de la lecture. Les libraires, les bibliothécaires, les enseignants, les enseignantes. Cela peut aussi être une tante, un parrain, une marraine qui fait une lecture sur Skype une fois par semaine. Et oui, je sais qu'on n'utilise plus Skype. Parfois, la lecture vient aussi autrement. Christopher Lacquiez, lui, n'a pas été exposé aux livres étant enfant. Il a découvert la lecture seul, parce qu'il a compris qu'elle pouvait réparer des choses chez lui.
J'ai pas eu la chance d'être bercé autour d'ouvrages, autour de livres. Je n'ai pas connu ce plaisir-là. Ma famille, ce n'était pas des grands lecteurs. Par contre, c'est des grands conteurs d'histoires.
Christopher Lacquiez, il est écrivain et il est aussi ce qu'on appelle un booktalker. Concrètement, ça veut dire que plus de 500 000 personnes suivent ses réflexions et ses conseils de lecture sur TikTok.
J'ai eu la chance qu'on me raconte toute mon enfance énormément d'histoires, et c'était comme si ces livres existaient sous une autre forme, on va dire. Ce qui m'a amené à la lecture, c'est avant tout les expériences personnelles, et pour moi la souffrance et la douleur, qui m'ont dirigé vers des lignes, parce que c'était et pour moi le moyen de m'échapper du monde, et aussi le moyen de le comprendre, et surtout le moyen de pouvoir adoucir ces souffrances qui murmuraient en moi. J'ai pas vraiment de livre qui m'a marqué étant enfant, tout simplement, parce que je n'ai pas lu beaucoup de livres enfant. C'est arrivé très très tard, c'est-à-dire aux alentours de mes 19, 20 ans que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la lecture. Puis alors là, il y a eu énormément d'œuvres qui m'ont bouleversé. Dostoïevski a été l'un des auteurs qui m'a le plus touché, qui m'a le plus appris sur la psychologie humaine. J'ai beaucoup aimé Anima de Mouawad, qui m'a permis de pouvoir percevoir le monde d'un œil différent à travers des animaux et voir comment la poésie et comment l'écriture pouvaient embellir certaines souffrances et certaines douleurs. Donc c'était absolument sublime à ce moment-là.
Si Christopher est devenu un grand lecteur, ça n'est donc pas parce qu'il éprouvait un plaisir immédiat à la lecture, mais parce que la lecture l'a aidé à avancer dans le monde. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a autant envie de leur transmettre le plaisir de lire.
Il était une fois.
Et ça, c'est quelque chose de compliqué à faire comprendre à un enfant. Qu'il peut ressentir des émotions contradictoires pendant la lecture. Que le plaisir, ça n'est pas juste de pouffer de rire quand Cornebidouille dit face de camembert et non d'un prout de chameau.
Alors ? Et Bert qui a du caca dedans.
Est-ce qu'il faut que la lecture soit un plaisir à chaque page pour que l'enfant ait envie de lire ?
Moi, quand je parle de plaisir, j'aime bien parler de plaisir parce que ça donne envie, mais en réalité, je le vois comme une gamme d'affects. Et cette gamme d'affects, comme la vie, elle est hyper diverse. C'est-à-dire que, bizarrement, les livres peuvent... On peut adorer un livre qui nous donne envie de pleurer. On peut adorer un livre dont on n'est pas trop certain de ce qui se passe exactement. On peut adorer un livre qui nous met en colère. Ces affects-là, non seulement ils sont valides, absolument valides quand on rencontre un texte littéraire, mais en plus ils sont extrêmement utiles parce que ils nous font découvrir de manière sûre, ou du moins sans danger pour nous-mêmes évidemment, toute une gamme de sensations et de sentiments qui seraient potentiellement dangereuses à explorer si c'était dans la vraie vie. Donc le fait qu'on rencontre pour la première fois, je sais pas, la mort, la colère, des grosses colères.
Il était une fois, grosse colère, il avait jamais d'âme.
On voit comme dans l'album Colère, un petit garçon qui construit une tour en Lego, la tour s'effondre et là, il va être furieux. Il est comme un dragon,
On a commencé pour ça !
Il hurle, il se retourne dans tous les sens, ça va pas du tout, etc.
Non, pas l'étagère ! Non, pas me jouer ! T'es méchante !
Et après, à force d'avoir fait la colère, il se calme, il revient au début et il reprend sa tour de Lego.
Je veux te le rappeler.
Et je trouve ça fascinant quand on lit ça à un tout petit enfant de voir les expressions faciales. On voit que ça se... mes gamins, mais les deux, hein, celui qui a 1 an et demi et celui qui a 4 ans, on voit l'impact que ça a sur eux. Leur petite bouche se tord, leurs yeux se froncent et on voit que leur encore ce temps en entier. Et à la fin, il y a comme une espèce de souffle, ils se relâchent, ils connaissent très bien ce livre, ils savent qu'à la fin, ça va se calmer. Il y a tout un tas d'albums comme ça qui permettent de vivre et de digérer ses affects dans un environnement sûr. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est pas vraiment du plaisir, mais quand même, le fait d'avoir ça à vivre et de savoir qu'on le fait sans ce vertige du caprice, dont on sait pas ce qui va se passer, sans cette détresse totale, il y a un niveau de contrôle qui, pour moi, s'apparente quand même au plaisir et qu'on retrouve plus tard à l'âge adulte quand on lit des textes qui nous affectent énormément. Émotionnellement, évidemment, on peut être bouleversé, on peut être chamboulé, mais il y a quand même cette notion que je suis encore en contrôle de cette émotion dans une certaine mesure. Je la laisse m'emporter, mais je sais que ça a lieu au sein du livre et ça m'aide, moi, à mettre des mots précis sur les émotions que je ressens. Souvent, quand on parle à des enfants, ils vont dire des choses du genre « j'ai détesté, mais j'ai tout lu ». Et ces genres de contradictions, elles sont vachement intéressantes. Des enfants qui sont à la fois, on le voit avec les tout-petits-enfants, qui sont à la fois réticents de t'apporter un livre, mais en même temps, ils veulent le lire. Ils ont un peu peur, mais en même temps, ils ont envie. Ils sautent des pages où ça fait un peu peur, mais qu'est-ce qui peut les attirer là-dedans? Qu'est-ce qui les aimante? Qu'est-ce qui les repousse? Toutes ces questions, elles valent la peine d'être éclaircies.
Ce que m'a expliqué Clémentine Beauvais, c'est qu'en plus de rendre la lecture interactive, il faut faire parler les enfants de leurs émotions à la lecture, peu importe ce qu'on lit et à quelle fréquence.
Je dirais que ce qui est très intéressant, c'est de demander aux enfants et aux adolescents, alors quand on arrive vers les adolescents, là on peut dire des choses encore plus pointues, hein, mais de leur dire, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Et surtout, ce que tu as ressenti, à ton avis, ça vient d'où dans le texte? Mais dès l'âge de 8 ou 9 ans, on peut quand même commencer à tenter ça, parce que là, on enseigne ce que c'est que le geste littéraire, et donc créatif, parce qu'on leur fait comprendre qu'en réalité, il y a des procédés narratifs, stylistiques, formels, à l'origine de certains de leurs affects. On peut leur apprendre des termes littéraires, par exemple, du suspense, du cliffhanger, voilà, le fait qu'on arrive à la fin d'un chapitre et on sait pas ce qui va se passer après. À la fin d'une page de Tintin, t'as toujours envie de tourner la suivante parce qu'on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ad hoc? On leur apprend que là, en fait, c'est une chose que l'artiste a mis là, l'auteur a mise là, pour générer ce sentiment d'attente. Ça met l'enfant, l'adolescent, en contrôle, en maîtrise de sa propre langue. Et il comprend que, selon la manière dont il arrange les mots dans l'ordre, selon la manière dont il choisit tel ou tel registre de langue, selon la manière dont il va oser des choses stylistiques, que ce soit de l'ordre de la métaphore, du chiasme, du parallélisme, etc., il n'est pas obligé d'ailleurs de savoir ce jargon-là, eh bien, ça va créer un affect chez son destinataire. Donc, non seulement il est plus capable de nommer ses affects en général et par rapport à un certain texte, mais en plus, il est capable de comprendre que le langage, qui est notre combinatoire commune, qui existe partout, qui est banal au possible, qui est gratuit, ce langage-là, je peux, moi, à mon tour, le manipuler, le tordre, jouer avec, m'amuser et le resservir, entre guillemets, à ma sauce, à d'autres personnes qui vont en être également affectées. Et ça, c'est une puissance absolument gigantesque.
L'important, ça n'est pas donc de créer uniquement du plaisir immédiat, mais aussi de l'affect. Et c'est ce que les livres faisaient à Charlotte.
Je me souviens du premier livre sur lequel j'ai fait un exposé, c'était en CE2. C'était La chanson de Anna. Je pense que c'était dans la collection Pleine Lune, en tout cas c'était une couverture hyper douce, un peu cartonné, et quand tu passais ton doigt sur les lettres, le titre était un peu gaufré. Et c'était l'histoire d'un petit garçon pendant la guerre, et ses parents lui disaient, si un jour tu rentres et que tu nous entends chanter une chanson, c'était le temps des cerises, il faut que tu cours et que tu ne reviennes pas. Et un jour il rentre chez lui, il y a la Gestapo, et donc il va essayer de s'enfuir, et donc c'est l'histoire d'un petit garçon juif qui essaye d'échapper à la Shoah. Et ça m'avait bouleversée, je me souviens très bien de mon exposé, de ma fierté de pouvoir parler d'un livre comme ça et de ce sentiment de te reconnaître dans un texte, non pas évidemment que c'était mon histoire, mais ça parlait de choses dans lesquelles je reconnaissais des morceaux d'histoire de ma famille. Il y avait des noms de rues dans le livre qui étaient des rues qui portaient les mêmes noms que des rues près de chez moi. Donc il y avait plein de choses dans lesquelles je me reconnaissais. Et un peu plus tard, je pense en fin d'école primaire, j'avais lu un livre qui s'appelle « Comment devenir parfait en 3 jours », auquel je repense encore presque toutes les semaines, je pense, et c'était l'histoire d'un petit garçon. je sais plus, ça se passait pas très bien à l'école ou dans sa vie, enfin où il voulait être plus cool, je ne sais pas. Et il trouvait un manuel au CDI qui expliquait comment devenir parfait en 3 jours. Et le premier jour, il devait genre porter un poireau autour du cou, c'était pour apprendre à soutenir le regard des autres et à s'en foutre. Et en fait, à la fin, il finissait assis sur une chaise à boire du thé, parce qu'en fait, pour être parfait, il faut ne rien faire. Et que quand on essaye de faire des choses, forcément... On n'est pas dans la perfection. J'y ai beaucoup repensé parce qu'il y a un essai que j'ai adoré ces dernières années qui s'appelle « La joie militante sur la pureté ». Et je trouve que beaucoup de concepts qui sont des choses qui m'importent aujourd'hui étaient déjà contenus dans ce livre. Et je pense que c'est un peu comme le premier essai que j'ai lu, ou en tout cas le premier livre dans lequel me parvenaient des idées, des concepts, des allégories. Enfin, je pense que c'est un des premiers livres qui m'a vraiment aidé à penser, pas juste à ressentir des choses, comme la chanson de Anna, mais vraiment peut-être pas à produire des réflexions, mais en tout cas à ressentir vraiment des pensées, quoi. Des petites épiphanies, des petites ampoules dans ma tête. Ça, c'est un souvenir de lecture hyper fort et qui m'accompagne encore.
Il y a donc les livres en tant que tels et l'effet qu'ils font aux enfants, mais il y a aussi le contexte.
On parle pas forcément du contexte de lecture, mais de ce plaisir de lire un livre dans un lit, avec un café ou avec un chocolat chaud, si on est un enfant, de la sensorialité de tel exemplaire qu'on a trouvé dans la bibliothèque de ses grands-parents et qui sent un peu le champignon. Je connais une petite fille qui renifle chaque page à chaque fois qu'elle tourne une page, mais c'est une forme de plaisir qu'il faut intégrer là-dedans. Il y a des très beaux articles sur le fait de manger les livres pour les bébés. Cette espèce d'impression de dévoration du livre. Il y a vraiment toute une quantité de plaisir varié.
Clémentine Beauvais insiste aussi sur l'importance de la lecture à voix haute, même pour un enfant qui sait déjà lire.
Mais en fait, la lecture a toujours été une activité collective et partagée, et on l'a un peu oubliée, parce qu'il y a eu une multiplication de récits qu'un livre, ça se lit tout seul dans sa chambre, sous la couverture, avec une lampe torche. Et cette vision du plaisir solitaire de la lecture, pour moi, elle est assez toxique, parce qu'elle part du principe que c'est une espèce de monde intérieur dans lequel on s'échappe, loin de tout le monde et qui n'a finalement aucun lien avec ses amis, avec sa famille. C'est aussi entériné par le fait que, de fait, pour de nombreux lecteurs, la lecture a été ça dans leur vie. Il y a peut-être des gens qui étaient assez introvertis, assez timides, enfin, je veux dire, je me compte parmi eux. Et donc, du coup, qui ont des grandes difficultés à imaginer comme lecture d'autres types de pratiques, dont la lecture à voix haute, la consommation d'audiolivres, le fait de voir des lectures performées au théâtre ou ailleurs, les contes racontés à voix haute aux enfants, etc. Donc, pour moi, déjà, il faut rappeler que la lecture à voix haute, c'est quelque chose de complètement normal et ancestral.
On le voit dans les romans du 19e siècle, ou même dans les séries. Ces femmes qui sont en train de broder, et l'une d'elles fait la lecture. Ça, c'est un souvenir marquant pour moi aussi, dans Les 4 filles du Dr March, où Joe lit tous les soirs à ses sœurs les feuilletons de son histoire. Alors ok, c'est dans le film avec Winona Ryder, mais je suis sûre que c'est aussi le cas dans le livre. En tout cas, les sœurs sont captivées. Après avoir vu le film, on avait joué à ça avec mes cousins. On écrivait des histoires et on se les lisait. Comme quoi, les formes de lecture sont multiples. Il n'y a pas une façon de donner envie de lire.
Mais surtout, qu'est-ce que ça apporte plutôt que qu'est-ce qu'on donne? Ça veut dire aussi que les deux l'ont lu en même temps. Qu'il n'y a pas un rapport de « j'ai adoré ce livre quand j'étais petite, tiens, le voilà », et ensuite d'attendre de « alors tu l'as lu, qu'est-ce que t'en as pensé ?» qui ferait un jugement aussi sur mes propres lectures d'enfance. Là, moi, je suis très pour le fait de lire un livre qu'on va découvrir en même temps que l'enfant. Ça, c'est super, super important pour moi, parce que notre voix se module différemment quand on est affecté par un livre, et souvent pour la première fois. Et donc, le fait que l'enfant perçoive dans la voix de l'adulte cette vulnérabilité-là, qui se disent « ah ben voilà, ce moment est émouvant pour ma mère, par exemple », c'est très, très important. De faire aussi que ce soit parfois l'enfant qui lise à l'adulte. Donc, c'est l'enfant qui, lui, va être en contrôle du texte, des inflexions, des voix, et encore une fois, va se laisser emporter, affecter. Et on va pouvoir dire, tiens, là, tu vois, t'as lu beaucoup plus vite à ce moment-là, c'est parce que t'étais emporté par ça. Enfin, en fait, ce partage-là, après, il va rester pendant des années. On se souvient très bien qu'on a lu tel livre ensemble à voix haute, en tel moment. Quand t'étais dans le bain, tu te souviens qu'on avait lu celui-là. Ah oui, c'était quand on était dans la voiture pour aller, je sais pas, à Ploulé-Colombes. Enfin, il y a plein de manières de faire de ces lectures communes une histoire commune. Donc, il y a du lien familial, social qui s'établit au-delà de la seule lecture.
Il n'y a pas d'études qui corrèlent le fait que les parents lisent beaucoup au fait que les enfants lisent beaucoup plus tard. Mais ce qui est sûr, selon Clémentine Beauvais, c'est que la présence des livres dans la maison, de la fiction dans la vie, a un rôle. C'est ce qu'essaie de faire Christopher Lachiez avec sa fille.
Si je devais transmettre ce plaisir à mes enfants de la lecture, ce que j'essaie de faire avec ma fille, c'est de reprendre ce que dit Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, en fait, a une phrase qui est magnifique. Il dit, si vous voulez apprendre aux hommes à construire un bateau, ne leur montrez pas comment on fixe le mât, ne leur montrez pas comment on bâtit la coque, non, mais créez en eux le désir de la mer. Créez dans leur cœur le désir de la mer, voilà. Eh bien, ce que j'essaie de faire avec ma fille, notamment, c'est de pouvoir lui créer le désir des lignes. Et le désir des lignes, il passe avant tout par un mimétisme. C'est-à-dire que lorsqu'elle me voit lire, elle associe énormément la lecture à papa, aussi à maman, parce que maman lit beaucoup, et de ce fait, créer une forme de désir.
C'est le moment où je vous dis que moi, c'est rare que mon fils me voit en train de lire. Tout simplement parce que quand je le garde, je ne peux pas me concentrer sur une lecture et être interrompue en permanence pour venir assister au spectacle qu'il prépare dans sa chambre. Et qui, la plupart du temps, ne consiste qu'à dire que le spectacle va commencer. Mais ça peut passer par plein de moyens différents. Et comme l'explique Clémentine Beauvais, bon, elle est agaçante, elle lit tous les soirs dans son lit avec ses enfants, il y a plein d'autres manières d'exposer les enfants au texte et leur apprendre le plaisir de lire.
Si on se dit, moi j'adore lire, mon enfant j'aimerais bien qu'il lise un peu plus, comment faire, et qu'on peut mettre en place, qu'on a la disponibilité mentale de faire ça, c'est une stratégie à laquelle on n'avait pas forcément pensé. C'est de se dire, voilà, je pars en vacances, je mets un audiolivre au lieu de mettre la radio. Mon enfant est dans le bain, je vais lui lire un livre. À table, après le dessert, on prend tous les soirs 10 minutes pour lire un extrait de choses. Mais c'est seulement si c'est possible dans la famille. Moi, j'aime pas du tout le côté, on va essayer de dire à toutes les familles de faire un book club famille. Non, c'est complètement illusoire. Mais si on cherche des stratégies pour apporter plus de littérature, et à ce moment-là, c'est une bonne idée. On peut aussi chercher les clubs de lecture à proximité. On peut aussi, si on s'entend très bien avec une libraire ou avec une bibliothécaire, là encore, je parle des parents qui sont déjà intéressés par la lecture. On peut leur demander s'ils ne voudraient pas faire un club ado, enfin, ce genre de choses.
Vous venez d'écouter Fête des Gosses, une production Louis Média.
Fête des Gosses.
Cet épisode a été réalisé par Anna Bui, dont vous connaissez maintenant la voix et les goûts littéraires. La musique est de Jean Thévenin. Elsa Berthaud est à la production. Abonnez-vous au podcast pour ne louper aucun nouvel épisode et mettez-nous plein d'étoiles et de commentaires, ça nous aide beaucoup. À très bientôt.
Buying foundation online was impossible. How am I supposed to find my shade when I can't even get it right in store? Then I discovered Il Maquillage. I took their AI-powered quiz to find my custom match, and wow, this foundation is literally my skin in a bottle. The undertone and coverage are spot on. It's so neutral and weightless, I can't even tell I'm wearing makeup. Plus, with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Take the Power Match quiz now at ilmaquillage.com/quiz. ilmaquiage.com/quiz.
Puka, Bella, I'm sure you've noticed some changes.
Who are you talking to?
I'm just practicing for when I have to tell the dogs about the twins. You know, because
they'll... Be fine in the spacious third row seat.
But the twins...
Can sleep peacefully thanks to the rear manual sunshade.
And what about the...
Extra cargo space for strollers and dog beds?
Yeah, I guess you're right.
Can we go to the hospital now? The contractions are getting closer.
The three-row Lexus TX. Because everyone should feel like the center of the universe. Experience amazing at your Lexus dealer.